Vous êtes sur Radio Nekiluka, il est 13h, le journal avec Reine Fabienne Dotiga. Reine, bonjour.
Bonjour Marcel Mbakula, bonjour à tous. À la une, 4 officiers de l'armée centrafricaine rétrogradés. Une information rendue publique dans un décret présidentiel signé mercredi dernier à Bangui. Précision au début de cette édition. Plus de 27 000 élèves composent le brevet des collèges depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national. Cependant, certains candidats sont absents. Reportage à suivre. On célèbre aujourd'hui la journée mondiale des donneurs de sang, alors que le Centre national de transfusion sanguine est confronté à plusieurs difficultés. Pour 50 000 poches de sang attendues, moins de la moitié a été collectée. Football SCB, Real Comboni et UFCB d'FC 8, c'est l'affiche du démarrage cet après-midi de la 4e journée du championnat des moins de 20 ans au stade Barthélémy Bouganda.
À la une de ce journal, Rennes. L'armée passe au régime de sanctions pour faire régner la discipline.
Oui, Marcel, 4 officiers ont été rétrogradés. Le décret de leur sanction a été conjointement signé le 8 juin par le ministre de la Défense, le Premier ministre et le Président de la République. Ils sont sanctionnés pour manquement à leurs obligations. Armando Yangindi.
Dans le décret, le motif varie d'un officier à un autre. Le capitaine Frédéric Wango, du 4e bataillon d'infanterie territoriale Béticat, est rétrogradé au grade de lieutenant. Le lieutenant du bataillon d'honneur, Jean-Paul Moutet, est réduit sous lieutenant. Et Bertrand Bouyembe, un autre lieutenant du bataillon du génie, est rétrogradé lui aussi sous lieutenant. Selon le décret, ils n'ont pas exécuté un ordre pour une mission commandée. Un autre officier qui est sanctionné, c'est le lieutenant Bilal Al-Amir, du 5e bataillon d'infanterie territoriale. Il devient sous-lieutenant. Le motif, selon le décret, manquement grave aux devoirs et responsabilités du militaire au combat ayant occasionné la mort de 6 soldats en Zako dans le Mbomou. Le désormais sous-lieutenant Bilal Al-Amir était à la tête d'une faction des forces armées centrafricaines déployées en Zako.
Armando Yanginti sur Radio Ndekeluka.
Dans la sous-préfecture de Kwango, le calme est revenu après des échanges de tirs hier entre des éléments des forces armées centrafricaines et des rebelles de la CPC.
Oui, cela s'est passé précisément au village Sebagoudé, à une centaine de kilomètres de Kwango sur l'axe Zangba. C'était une opération militaire contre une position des rebelles. Selon des sources locales, les activités ont repris dans ce village. Les forces armées centrafricaines patrouillent pour assurer la sécurité de la population. Les habitants qui avaient fui leur domicile pour se réfugier en brousse commencent à rentrer chez eux. Et à Kwango Centre, les épreuves du brevet des collèges BC se déroulent normalement. Écoutons le témoignage de cet habitant, joint au téléphone par Astrid de Bonner-Colingué.
Après le renfort de la force des armées centrafricaines envoyées par le gouvernement dans la ville de Kwango, les habitants de Kwango trouvent maintenant dans la quiétude et la circulation, les activités se déroulent maintenant dans une bonne condition. Il y a le retour des faits dans la ville et dans les 4 communes de Kwango ici. Les enfants sont venus ce matin à temps et ils sont venus massivement. Les candidats de tous se sont présentés au grand nombre. Et l'ouverture officielle a été faite ce matin par le préfet ainsi que le maire de la commune. Et ça fait que les enfants se trouvent vraiment...
À Boire, à plus de 450 km de Bangui, au nord-est du pays, les audiences de la première session criminelle de la Cour d'appel vont s'ouvrir lundi prochain.
28 dossiers vont être jugés, mais bien avant le déroulement des audiences, 15 personnes appelées jurées populaires ont été choisies vendredi dernier pour assister les magistrats pendant le procès suivant Joachim Thierry Pessiré, président de la Cour d'appel de Boire. Il est au micro de notre correspondant Benjamin Bélios Abou.
Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, à son article 213, qui dit qu'avant une session criminelle, il faut que la Cour procède à un tirage au sort des jurés. Donc ce sont des personnalités qui jouissent de bonne moralité qu'on avait choisies parmi la population pour qu'ils puissent prêter main forte à la Cour dans les audiences de la session criminelle. Leur rôle est d'aider la Cour dans les appréciations des faits et dans la délibération. Et nous avons eu aussi, comme prescrit la loi, faire la commission d'office des avocats. Donc il y a des accusés qui n'ont pas de moyens pour se faire constituer un avocat. C'est ainsi que le Code a prévu que lors d'une session criminelle, il faut qu'on mette des avocats d'office à ces accusés. Après le tirage au sort des jurés, nous avons procédé à la commission d'office des avocats à chaque accusé pour que d'ici le 20, nous allons démarrer les audiences de la session criminelle et ces avocats vont assister ces accusés et vont les défendre lors de ces audiences.
Le journal se poursuit sur Radio Nekiluka, volet éducation. Les élèves du 3e composent depuis ce matin le brevet des collèges sur l'ensemble du territoire centrafricain.
Ils sont plus de 27 000 candidats à passer cet examen. Selon la direction des examens et concours, aucun incident majeur n'a été signalé. François Kossimé Palato a sillonné ce matin deux établissements de la capitale.
La compétition s'était bien passée, c'est juste les difficultés en feu en grand-mère. On n'a pas un peu d'éclaircissé sur ça, c'est pour cela qu'on était un peu bloqué. La dame qui nous a surveillés, elle est bien, elle nous a montré certaines choses, elle nous a bien surveillés.
Gracia Mayonga fait partie des 2112 candidats à l'examen du brevet des collèges au centre numéro 5 du lycée des Martyrs. Les élèves discutent après avoir composé le français. Le chef de centre, Agotoko Jean-Marie, parle des difficultés rencontrées au début des épreuves.
Ceux qui n'ont pas leur carte, on ne pouvait pas les accepter ensemble. Ça a posé un problème. Les chefs d'établissement ont été appelés à intervenir pour nous amener à avoir une idée claire sur ces candidats-là. Et c'est ce qui a été fait pour certains. Donc pour ceux qui n'ont pas pu le faire, on les a mis purement et simplement hors de l'établissement. Au moins 4 à 5 personnes comme ça.
Au lycée Marie-Jeanne Caron, les 1758 candidats ont vécu les mêmes difficultés, avec en plus les surveillants qui ne se sont pas présentés à temps.
Moi, nous étions venus à l'heure. Les épreuves ont commencé un peu en retard parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sujets. On a commencé à 8 heures et puis on a fait 30 minutes pour la dictée et 2h30 pour l'étude de texte. Il n'y avait pas de problème avec les surveillants, on se comprenait bien.
Corneille Minissari, comme l'aide des 27 000 autres candidats au brevet des collèges, attend d'ici une semaine la proclamation des résultats.
Attention, une crise alimentaire guette la population de Mbata et ses environs.
Se nourrir convenablement un défi quotidien pour les habitants de Mbata, Bata-Limon, Bangui-Bouchia et Baleloko et ses périphéries. Les activités agricoles en régression favorisent l'augmentation des prix des denrées alimentaires sur le marché local. Avec un faible pouvoir d'achat, la population peine à joindre les deux bouts afin d'avoir accès à une alimentation saine. Igor Djaskrensi n'a pas été dans la région.
Le constat est sans appel dans les localités de Bata-Limon, Mbata, Bangui-Bouchia, Baleloko, pour ne citer que celle-ci. La population vit une famine qui ne dit pas son nom. Gauthier Kongandembo, dans son kiosque d'alimentation à Bata-Limon, déplore cette situation.
Le manioc, le plantain et le taro sont en abondance ici. La crise concerne exclusivement la viande de bœuf et le poisson, car les gens nous emmènent ces produits depuis Bangui. C'est pourquoi nous demandons aux autorités centrafricaines d'apporter une aide à la population de Bata-Limon pour la relance des activités agro-pastorales, car nous en avons besoin ici à Bata-Limon.
Même si les produits champêtres ne sont pas tellement affectés par cette crise, se procurer d'autres denrées alimentaires, à l'exemple de la viande bovine ou la volaille, comme dans le passé, pose problème. Le panier de la ménagère est déjà affecté par cette crise. Natacha Lalao et Nathalie Konamna, mère de foyer, digèrent mal cette situation.
Ici à Bata-Limon, nous souffrons, c'est pourquoi nous maigrissons au jour le jour. Nous cultivons la terre, mais il n'y a personne pour acheter nos produits. Il n'y a pas d'argent dans la localité. Chaque jour, nous ne consommons que les feuilles de manioc et des champignons sauvages qui nous aident ces derniers temps.
Trouver à manger devient difficile. Les enfants meurent de faim, même trouver de l'argent est pénible. La viande, le poisson, même les légumes ne poussent plus, ce qui occasionne la famine dans la localité.
La flambée des prix des denrées alimentaires a considérablement réduit le pouvoir d'achat de la population. La viande de chasse a doublé de prix à l'intervalle de 2 mois. Alain Toulas, cultivateur en Mbata, se souvient de la belle période.
Une gazelle qui se vend hier à 2000 francs devient aujourd'hui 3500 francs. Une demi-cuvette de manioc de 2000 francs revient à 1000 francs, voire 750 francs de nos jours. Nous sollicitons l'aide du gouvernement pour la relance agricole afin de nous permettre de vivre décemment pour assurer l'éducation de nos enfants.
Pour une solution durable à cette crise, la population demande une réelle relance agricole, seul gage de la lutte contre la flambée des prix des denrées alimentaires. Les cultures vivrières pratiquées dans la région avec les moyens rudimentaires ne favorisent pas l'autosuffisance alimentaire. Afin de concrétiser l'un des 5 verbes du Messan, à savoir nourrir, cher au président fondateur Barthélémy Boganda, Igor Djeskin Serapa est de retour de Bata-Limon, Radio Ndekeluka.
14 juin, le monde célèbre aujourd'hui la journée des donneurs de sang.
Depuis plusieurs années, la République centrafricaine n'obtient pas suffisamment de poches de sang pour sauver des vies dans le pays, comme le demande l'Organisation mondiale de la santé. Le pays a collecté seulement près de 22 000 poches de sang pour l'année, alors qu'il en faudrait 50 000 poches. Le Centre national de transfusion sanguine est confronté à des difficultés de matériel, selon la directrice, Dr Regina Edwidge Langueta Makodia, interrogée par Prudence Gisèle Heuguet.
Que le thème de cette année, c'est rejoindre le mouvement Sauver des vies. J'appelle tout le monde qui est en bonne santé de venir sauver ce centre-là parce que vous voyez, on prélève ici, on collecte ici et on envoie également dans les régions sanitaires. Donc, les besoins sont énormes. On a au moins un peu plus de 140 sites de donneurs. Cette année, nous avons collecté 22 208 poches de sang. Au niveau des régions, c'est à peu près entre 10 000 et 12 000 poches pour tout le territoire. Donc, si vous associez les 10 et 12 000 sur les 22 000, ça nous fait un total de plus de 30 000 poches de sang pour tout le territoire. Ce chiffre-là est trop faible par rapport aux besoins du pays parce que sur l'OMS, nous devons collecter 53 000 poches par an. L'idée, c'est de continuer à sensibiliser davantage la population, surtout les jeunes. Parce qu'il y en a qui pensent que l'activité de don de sang, ça concerne seulement une catégorie de personnes qui sont des donneurs. Non, tout le monde peut être donneur si tu es en bonne santé et que tu as eu un âge qui est compris entre 18 et 60 ans. Tous ceux qui ont donné leur sang, je leur dis merci et que le combat continue.
Actualité hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, l'armée congolaise a perdu le contrôle de la ville de Bunagana, frontalière avec l'Ouganda.
Ce week-end, après des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le groupe armé du M23, des militaires congolais ont été forcés de se replier du côté de la frontière ougandaise. De son côté, l'armée congolaise parle d'une invasion de Bunagana par l'armée rwandaise. De son côté, le Rwanda nie toujours toute implication de ses soldats.
À Madagascar, l'ex-président du Sénat, Rivo Orako Tovao, est devant la justice pour corruption.
Oui, mars. Il a été convoqué hier par le Bureau indépendant de lutte anticorruption, Bianco, pour une suspicion de corruption, de détournement de fonds publics et d'abus de fonction. Des faits qui remontent à 2019, lorsqu'il était à la tête de la Chambre haute. C'est la première fois qu'un chef d'institution fait l'objet d'une enquête dans le pays.
La page sport de cette mi-journée, football, démarrage aujourd'hui de la quatrième journée du championnat des moins de 20 ans au stade Barthélémy Boganda.
Dans quelques instants, Sporting Club de Bangui affronte Real Comboni, suivi du duel Université Football Club de Bangui, diplomate au Football Club du 8e arrondissement.
Rien l'affaire du Comité national olympique et sportif centrafricain continue de faire couler de l'encre et de la salive.
Oui, Marcel, depuis le 28 mai, il y a deux bureaux du Comité olympique en République centrafricaine, le CIO, le Comité international olympique et de l'ACNOA. L'association des comités nationaux olympiques d'Afrique réagisse et condamne l'action du ministère des Sports de mettre en place un autre bureau. Ces organisations ont envoyé une note au bureau dirigé par Gilles Gilbert Grisingué. Bienvenue Bello nous donne la teneur de leur réaction.
Pour le CIO, la mise en place d'un bureau du Sénoska dit parallèle est qualifiée comme un incident regrettable, tendant à déstabiliser le bureau géré par Gilles Gilbert Grisingué, dûment reconnu. Le CIO et l'ACNOA condamnent avec la plus grande fermeté les agissements du ministère des Sports et rejettent catégoriquement ces tentatives d'ingérence répétées qui, selon eux, ne sont en rien compatibles avec les règles de la charte olympique et les valeurs qui régissent le mouvement olympique. Le document rappelle que seuls les comités nationaux olympiques reconnus par le CIO peuvent représenter leur pays, citant en l'occurrence le bureau issu de l'Assemblée générale élective du 13 novembre 2021, dirigé par Gilles Gilbert Grisingué. Le Comité international olympique met en garde tous ceux qui vont entreprendre une action en dehors du bureau reconnu, toute tentative par un tierce de se substituer aux prérogatives du Sénoska. Pour situer les faits, après expiration du mandat du bureau dirigé par Gilles Gilbert Grisingué, une Assemblée générale élective devrait être organisée. Le ministre des Sport émet une réserve et demande au bureau sortant de retarder les élections en attendant que les choses soient tirées au clair. Cela n'a pas été observé, les élections sont organisées et le président sortant est reconduit. Le ministre des Sports va alors suspendre les activités du Sénoska et mettre en place un comité de crise devant organiser une autre assemblée générale. Ce qui est fait le 28 mai dernier en élisant Alfred Service à la tête du Sénoska, même si le tribunal administratif avait annulé la décision du ministre des Sports.
Merci à vous, bienvenue Bélo. Sur Radio Ndekeluka. Voilà tout pour cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre écoute. Ne partez pas, l'actualité se poursuit sur Radio Ndekeluka en langue nationale.